Aujourd'hui dans l'émission, je reçois Madame Sakina Baka, présidente de l'association Asa Azeka, pour nous parler de cette association, mais aussi pour nous parler du concert qui aura lieu le 28 octobre à 19h, salle Jacques Brel à Saint-Étienne, avec l'artiste Salim Lagdari. Madame Sakina Baka, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la présidente de l'association Asa Azeka. Qu'est-ce que ça veut dire, Asa Azeka ?
Alors, Asa Azeka, ça veut dire en amazigh, en berbère, aujourd'hui et demain. On a choisi ce nom parce que c'est un nom qui a été porté par des mouvements populaires en Algérie, Maroc, Tunisie, qui se sont mobilisés pour la démocratie. On a appelé ça le printemps, le printemps arabe, mais en réalité, c'est pas une dénomination qui convient à tous ces mouvements sociaux qui ont à la fois concerné des étudiants, des femmes, des ouvriers, etc., qui se sont mobilisés pour la démocratie, en particulier en Algérie, contre le quatrième mandat du président sortant. Et donc, à Saska, on aime bien ce mot parce que c'est un slogan qui a beaucoup été porté pendant ces manifestations. Et puis, c'est à la fois aujourd'hui et demain, ça veut dire que c'est aussi tourné vers l'avenir. Et dans notre association, on se dit que pour défendre nos valeurs, on sera toujours là, aujourd'hui et demain.
Alors, quelles sont les valeurs, justement, de votre association ?
Alors, Asa Azeka est une association d'éducation populaire, on n'a pas honte de le dire, et on est tourné vers l'autre, avec des valeurs de solidarité, d'entraide, de justice sociale, mais également, on est sur le champ de la lutte contre les discriminations, toute forme de discrimination. Et il est important pour nous de s'ouvrir au monde et non pas de se renfermer sur des identités qui, certes, peuvent être défendues. On peut parler de l'identité ouvrière, d'identité en termes de questions de genre, etc. Ce travail-là, il doit être fait dans la mesure où les gens doivent défendre aussi leurs droits. Mais il nous semble important, justement, de les porter collectivement. Et que c'est pas parce que je suis une femme que je ne vais pas me mobiliser sur des questions qui concernent essentiellement les hommes. C'est pas parce que je suis blanche que je ne vais pas me sentir concernée par le racisme anti-noir. Voilà. Donc on essaye de porter ça très modestement avec notre petite association.
Alors, de qui est composée votre association ? Elle est ouverte à tous ? Comment ça se passe ?
Absolument, elle est ouverte à tous, à toute personne qui partage nos valeurs. Elle a été créée en réalité en septembre 2022, donc c'est très récent. Mmh. On a à peine un an d'existence et on a porté différents projets. Elle a été, c'est vrai, créée par un groupe de femmes qui m'ont sollicité donc pour en être la présidente. Et dans l'association, on a bien entendu beaucoup d'hommes qui nous ont rejoints parce qu'ils sont aussi de ce combat-là et de cette volonté de défendre un projet politique pluriel et solidaire.
Alors parlez-nous un petit peu, avant qu'on parle de ce concert, des projets que vous portez, que vous avez portés ou que vous allez porter.
Alors, donc pour l'année qui vient de se terminer, puisqu'on a commencé en septembre 2022, on a notre actif, par exemple, j'ai donné une action qui a mobilisé les jeunes en tout cas et qui va être renouvelée avec le centre socioculturel de l'Arlequin. C'est un événement autour de la personnalité de Mourad Benchelali. Mourad Benchelali, c'est un des jeunes français qui ont été emprisonnés à la prison de Guantanamo, puisqu'à l'époque, ils avaient été suspectés de faire partie du réseau d'Al-Qaïda. Alors qu'ils n'avaient absolument rien à voir. Donc ils se sont fait capturer par les villageois du village dans lequel ils avaient atterri en tant que jeunes. Ils étaient allés se promener en Afghanistan avec certes beaucoup de naïveté, mais on le comprend. À 19 ans, quand on sort pour la première fois de son quartier, en l'occurrence Vénissieux-les-Minguet, donc ils se sont fait arrêter par le réseau Al-Qaïda, enfermés dans des camps d'entraînement où ils ont passé un certain temps. Ils ont réussi à s'échapper. Et puis, malheureusement pour eux, ils se sont échappés, mais les villageois les ont livrés aux Américains qui les ont emmenés à Guantanamo, donc à la prison. Et donc, Mourad Benchelali raconte son parcours. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est du vécu et que, à travers les témoignages, après tout, l'expertise vient de l'expérience, et son expérience de jeune homme qui est parti avec une grande naïveté de son quartier, qui se retrouve à la prison de Guantanamo, donc pendant presque 4 ans. Guantanamo, c'est un hors-lieu, c'est une prison qui a été construite pour les Américains où en réalité il n'y a absolument rien qui fasse référence au droit, il n'y a que de l'injustice et de l'absence de droit. Et ensuite, donc, Nizar et Mourad ont été rapatriés en France grâce à un comité de soutien dont on faisait partie il y a quelques années. Ils ont été jugés, ils ont quand même été emprisonnés à Fleury-Mérogis pendant quelques années et ils ont été blanchis tous les deux grâce au travail important donc, de réseau associatif et d'un grand avocat lyonnais qui est décédé maintenant. Donc cette conférence, elle a fait salle comble à la maison de quartier du Crédroc et le 27 octobre prochain à 19h, Mourad Benchelali revient parler de ce parcours au centre socioculturel de l'Arlequin à Saint-Étienne, Terre-Noire.
Alors, à travers la venue de Mourad Benchelali donc, pour une conférence, quel est votre objectif ? C'est la sensibilisation des jeunes, la prévention, faire de la prévention, c'est ça ?
Absolument. Alors, ce qui nous importe, c'est aussi de... Du coup, j'en profite pour parler des objectifs de l'association, qui sont la citoyenneté à travers l'accès à la science, à la culture et au droit. Donc, chaque fois, on essaye d'attraper des sujets qui nous renvoient à ces valeurs que nous portons et à ces grands objectifs. Et donc, Mourad Benchelali, lorsque je lui ai demandé de venir, puisque voilà, je le connais depuis longtemps, c'était effectivement pour parler... à la jeunesse, toute la jeunesse, et pas que la jeunesse des quartiers populaires ou des musulmans, parce que à travers son parcours, il nous parle de quoi ? Il nous parle aussi des institutions et du droit. Et on voit comment il est important, lorsque quelqu'un est accusé à plus forte raison, à tort, combien il est important que la justice fasse son boulot, qu'elle ait les moyens de le faire, et que ce travail-là soit aussi relayé par les médias, parce que, après tout, cette histoire-là, nous, on l'a connue à travers Guantanamo et le fait que, potentiellement, ils auraient commis des attentats. Or, les quelques rares personnes qui les ont accompagnés, tous les deux, qui ont essayé de comprendre leur parcours et ce qui s'était passé, ont vite compris qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec Al-Qaïda ou les réseaux terroristes. Donc, il y a la sensibilisation, mais il y a aussi comment on interroge, à travers des personnalités, nos institutions, qu'il s'agit de la presse, y compris la liberté de la presse qui est malmenée, y compris le droit, la justice. Et puis, c'est vrai qu'on est dans des sociétés particulièrement bipolarisées, on a des sujets sociétaux, on parle aujourd'hui du terrorisme. Moi, depuis que j'ai commencé à militer, en particulier dans la région lyonnaise, je me souviens très bien de l'extrême droite qui attaquait des lieux culturels sur les pentes de la Croix-Rousse. Ils attaquaient des artistes, des cafés, car il y avait des concerts, et puis tout ce qui était un peu crépus, le cheveu frisé, tout ce qui était un peu basané, qui portait des dreadlocks. Donc, malheureusement pour nous, dans ce pays, on a très peu fait attention à cette réalité, donc de la violence de l'extrême droite. On a beaucoup parlé de la violence, et à juste titre, à travers les attentats, à travers les assassinats de Samuel Paty, de ce qui s'est passé aussi à Charlie Hebdo. Mais voilà, on ne peut pas avoir de l'indignation à géométrie variable, et on ne peut pas non plus taire le fait que oui, on est potentiellement dans des sociétés violentes. Oui, il y a des gens qui sont prêts à tuer pour éliminer l'autre ou parce que ses idées ne lui plaisent pas. Donc, c'est important de faire référence à tout ça et pas uniquement parler du terrorisme dont sont auteurs les musulmans islamistes, qu'on appelle aujourd'hui radicalisé, en réalité c'est un terme qui convient pas du tout, on en a souvent parlé.
On parle souvent de radicalisation.
Absolument, alors que ça convient pas du tout. Être radical, c'est plutôt un terme positif. Être radical, c'est venir à la racine du mal. Donc le féminisme radical, moi, ne me gêne pas. Ça veut dire on va chercher d'où viennent les violences envers les femmes ou envers les minorités de genrées ou LGBTQI+. plus, ou d'où viennent ces inégalités, ces injustices, ces discriminations. Et là, petit à petit, radicalisation, c'est devenu synonyme de terroriste islamiste. Donc, on a l'effet retour dans les quartiers populaires. Beaucoup de jeunes vous disent, la radicalisation, c'est bien, puisque finalement, c'est revendiqué de se promener en djellaba ou en abaya ou un foulard islamique. En réalité, c'est pas ça. C'est la radicalisation violente. Ça, c'est interdit par la loi. Et puis, encore heureux qu'on est nombreux à s'insurger contre ces phénomènes. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société. On va rendre un hommage à un grand homme, un grand artiste, lui aussi algérien, mais qui se revendiquait pas du tout d'un territoire ou d'une religion ou quelconque, qui s'appelle Mato Blounès. Ça va être en partenariat, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Mato Blounès, il disait « Je préfère mourir pour mes idées que de mourir de vieillesse. » Il est mort pour ses idées en juin 98 en Algérie. Voilà. Donc, et puis on a, à travers notre histoire, l'histoire est jalonnée en Europe ou ailleurs, de gens qui sont morts pour leurs idées. Et c'est très important, y compris à travers des petites actions d'éducation populaire, de rendre hommage à ces gens qui ont porté des idées, qui sont allés jusqu'au bout. Parce que ce sont les minorités qui rappellent aux majorités les vertus de la démocratie, pas l'inverse.
Moi, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. On voit bien quand même aujourd'hui, on a parlé de Mourad Benchelali avec son témoignage et tout, mais on voit bien quand même dans les quartiers et en France en général, une certaine montée quand même du communautarisme avec, aujourd'hui on parle beaucoup à Baya, femmes voilées, etc. Là-dessus, comment vous, avec votre association, vous essayez de faire de la prévention, d'éduquer à ce genre de choses?
Alors c'est une question extrêmement complexe. En réalité, c'est pas nouveau cette question, puisqu'elle a émergé en 89 suite à les deux sœurs Lévy qui sont allées au collège avec le foulard. Et donc on appelait ça l'affaire de Creil. En réalité, l'émergence de cette tenue vestimentaire portée et revendiquée par des musulmanes, elle est née dans ces années-là, 90, en même temps en Algérie et en France. Et ce qui a été très intéressant, puisque j'ai aussi eu l'occasion de me rendre souvent en Algérie dans le cadre de mes activités associatives et militantes, on a vu que les mêmes questions se posaient de part et d'autre, et avec toujours les mêmes questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-ce que, par exemple, en Algérie, qui est un pays musulman, où la religion, l'islam est religion d'État, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être algérienne ou algérien sans être musulman ? C'est une quasi-obligation. Comment se fait-il que même dans ce pays-là, la question du foulard, de l'abaya, du hijab s'est posée, du niqab aussi, s'est posée avec une forte résistance du mouvement féministe, mais pas que, les mouvements étudiants, artistiques, ils l'ont payé cher puisque dans la décennie noire, les années 90, il y a eu quand même pratiquement 300 000 morts sous les balles ou les bombes des terroristes islamistes. Donc, c'est pas quelque chose de récent. C'est un problème qui traverse toutes les sociétés musulmanes en premier lieu. Et on oublie de dire que ceux qui ont payé le prix le plus cher, ce sont d'abord et avant tout les musulmans. On voit en Indonésie, en Afghanistan, on voit au Pakistan, il y a régulièrement des attentats. Après, cette question, elle est extrêmement complexe parce qu'elle porte des questions qui sont éminemment contemporaines, c'est-à-dire la question de l'identité. Et parler d'identité, par exemple l'identité corse ou bretonne ou basque, personnellement, je pense que c'est important. Quand je me déplace en France, j'aime bien que ce soit différent, entendre des sonorités différentes, manger des plats différents. C'est important, c'est ce qui fait la richesse d'un pays. Quand je vais en Algérie, je suis contente de voir des Touaregs dans le sud qui ne boivent pas que du Coca-Cola et qui ne sont pas tous habillés en jean. Je pense que c'est important, la diversité. Mais la diversité, ça ne veut rien dire si elle n'est pas accompagnée de l'égalité de traitement. Et c'est là que le bât blesse, parce qu'en effet, suite à ces mouvements qui sont éminemment politiques, le terrorisme, et puis surtout l'arrivée à grand renfort de financement qui venait des pays du Golfe, il faut bien le dire, l'islam salafiste et wahhabite, donc l'islam conservateur orthodoxe, s'est installé sur plusieurs décennies dans tous ces pays, y compris dans des pays musulmans, Algérie, Maroc, Tunisie. Et ce problème politique a été revêtue de la couverture religieuse, à tel point que, moi je me souviens en 2005, quand il y a eu des émeutes en France, on nous a réunis, nos institutions nous ont réunis pour dire, il y a eu des émeutes pendant 3 semaines, la police n'arrive pas à juguler cette violence dans les quartiers populaires, maintenant on va appeler les imams pour amener la paix dans les quartiers. On a eu ça encore récemment, mm-hmm. et je trouve ça, c'est scandaleux, c'est une honte. Mm-hmm. Les imams, les curés, les prêtres, les rabbins, il n'y a pas de souci, ils sont citoyens comme les autres, mais ce ne sont pas à eux de régler des problèmes politiques. Et donc, voilà, on voit comment, à la fois on parle de laïcité, et les jeunes ont besoin de comprendre de quoi on leur parle. Mm-hmm. Donc la laïcité, moi je leur dis souvent, c'est pas contre toi, c'est pas contre ta religion, c'est pas contre... tu as le droit de croire ou de ne pas croire, et encore heureux. Mais ça a été dévoyé pour dire la laïcité, c'est contre les musulmans. Et ce travail-là, il y a vraiment...
Un gros travail à faire pour faire comprendre aux jeunes réellement ce qui se passe.
Absolument, absolument. Mmh. Leur expliquer que, oui, tu as le droit d'être qui tu es. Non, on est contre les discriminations et il faut les dénoncer. C'est pas normal qu'on refuse un logement à une personne parce qu'elle est noire ou parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il a un prénom d'origine maghrébine. C'est pas normal, voilà. Ou parce qu'une femme élève ses enfants toute seule et qu'il n'y a soi-disant pas de mari ou pas d'homme à la maison. Voilà, il y a aussi ce type de problème. Mais donc, voilà, il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire la diversité et l'égalité. La laïcité et les mêmes droits pour tout le monde. Voilà, que les gens, ben, s'ils ont envie d'aller 5 fois par jour à la mosquée du coin, qu'ils aient une mosquée digne de ce nom, quel est le problème ? Quel est le problème ? Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut, j'allais dire, presque reconstruire, si tant est qu'on les construit un jour. Et donc, vous avez toute une génération qui est née avec l'idée qu'on n'aime pas les musulmans ou on n'aime pas les noirs, et que comme on ne m'aime pas, ben je me... Voilà, un peu...
Ça me rebeller penser,
me rebeller, ou bien me conforter à l'image que vous me renvoyez. C'est ce qu'a étudié Goffman, le sociologue, hein, quand il dit le retournement de stigmate, ben, si tu me vois comme un arabe ou comme une musulmane, ben, je vais me comporter comme une musulmane. Il ne parle que de ça. Dernier mot sur le communautarisme et la communauté. Moi, je pense que ce sont des sujets importants à aborder. On confond surtout, souvent en France, la communauté et le communautarisme. Et dans le milieu associatif, moi qui ai travaillé pour les services de l'État, je me suis souvent heurtée à des incompréhensions. Je vous donne un exemple très concret. Un jour, j'avais demandé à un groupe de femmes noires, parce qu'elles sont noires, et que ce n'est pas un vilain mot de dire que, voilà, moi je suis noire, blanche, objectivement, certains sont noirs, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, victimes de discrimination en raison de la couleur de peau, de venir parler de leur problème, de leur situation, et surtout de ce qu'elles proposaient. C'était une association. Eh bien, j'ai eu toutes les peines du monde avec mes collègues des services de l'État de l'époque, parce qu'elles me disaient, mais pourquoi elles n'arrêtent pas de dire qu'elles sont noires ? J'ai dit, mais parce que c'est justement à cause de la couleur de la peau qu'elles sont discriminées. Si c'était parce qu'elles étaient à mobilité réduite, elles parleraient de cette question-là. Donc, si on demande à tout le monde d'effacer ce qu'ils sont au prétexte qu'on vit en République et que la République ne reconnaît pas les communautés, on peut pas régler les problèmes. Donc oui, il y a du racisme anti-noir. Comment ça se manifeste ? Est-ce qu'on peut le mesurer ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, qu'il y ait des communautés, c'est une réalité. On parle de manière très valorisante de la communauté scientifique, la communauté artistique, ça ne pose pas de problème. Mais si on dit la communauté arabe, par exemple, avec d'ailleurs de joyeux mélanges, on a une majorité, ben, par exemple sur le département de la Loire, de gens qui viennent d'Algérie ou Maroc qui sont amazirophones, amazirs, ils ne sont pas arabes, on leur dit « vous les arabes ». Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, cette communauté-là, soit elle est valorisée parce qu'elle est scientifique, parce qu'elle est artistique, soit elle est disqualifiée parce qu'elle est descendante des colonies, parce qu'elle est de culture ouvrière, parce qu'ils viennent de milieu rural. Voilà. Et donc, quand ces personnes se regroupent pour défendre un sujet commun, un intérêt commun, à juste titre, les féministes, dans les associations féministes, on a majorité de femmes. Et ça paraît logique que des gens concernés par un problème se mobilisent. Mmh. Voilà. Donc on ne va pas leur reprocher d'être qu'entre femmes, puisque si elles ont besoin de parler des violences faites aux femmes, effectivement, elles vont être le moteur. Après, si elle refuse des hommes, c'est autre chose. Mais le moteur, c'est celui qui est concerné ou celle qui est... C'est ça la démocratie, c'est celui ou celle qui est concerné, parce qu'on ne voit pas tout. Moi, il y a des sujets que je ne vois pas, parce que, voilà, je ne suis pas agricultrice, eh bien, je ne connais pas les problèmes des agriculteurs, donc c'est normal qu'ils se mobilisent. Ensuite, on voit que si un groupe de femmes noires se mobilise, on va les traiter de communautaristes. Mmh. Et par contre, si c'est un groupe de féministes, j'aime pas le terme de blanc parce qu'il est très connoté, là, on va trouver ça normal. Donc, je pense que c'est important, y compris à travers les médias, de déconstruire ces représentations négatives. Oui, c'est normal qu'il y ait des communautés de gens qui défendent des intérêts. Et que, voilà, des musiciens qui défendent le droit de chanter ce qu'ils veulent, etc. Et par contre, des gens qui revendiquent de ne vivre qu'entre eux et qui refusent les autres, très sincèrement, à travers ma vie militante, politique, associative, professionnelle, j'ai quasiment jamais rencontré de gens qui disent « Nous, on veut des bandes tout ce temps, on veut vivre qu'entre nous et on ne veut pas de vous. » Voilà. Peut-être que ça existe, mais j'attends de voir les études scientifiques qui le démontrent. Ce n'est pas le cas.
Alors, vous nous avez beaucoup parlé de femmes quand même, mais est-ce que au sein de votre association, vous allez traiter justement des sujets qui touchent les femmes aujourd'hui ? Par exemple, les violences conjugales, les discriminations justement des femmes. Est-ce que ça, vous allez travailler sur des sujets comme ça ?
Alors effectivement, comme c'est la première année d'existence, on essaie de voir un petit peu l'existant, de ne pas marcher sur... C'est pas la peine de réinventer l'eau chaude.
Qui existe déjà.
Qui existe déjà, voilà, s'appuyer sur l'existant pour être partenaire avec d'autres associations, et puis aller sur des terrains qui ne sont pas... qui n'ont pas encore été défrichés. Et nous, en l'occurrence, on a, par exemple, fait un partenariat intéressant avec l'université. Et on dit, notre parti pris, c'est de dire, c'est pas parce que parmi nous, on a des gens de milieu populaire, dans notre association, on a des hommes et des femmes en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas droit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à la culture, à la science. On a organisé avec une association qui s'appelle Arvalan et ses amis au mois de juin dernier, un colloque en hommage à un grand sociologue qui s'appelait Abdelmalek Sayad. Il avait une partie de sa famille à Saint-Étienne. Abdelmalek Sayad a travaillé avec Pierre Bourdieu, donc une autre éminence dans le domaine de la sociologie. On a fait cet hommage avec trois universitaires. Et dans la salle, on a fait ensuite une enquête. On avait quasiment 60% de gens qui avaient niveau collège, lycée, voire en deçà, et puis 30% qui étaient universitaires ou étudiants en sociologie. Donc, notre parti pris, c'est de dire il faut que les milieux populaires, y compris ceux qui n'ont pas fait d'études, puissent être accueillis à l'université, que l'université sorte de sa tour d'ivoire et qu'elle mette à disposition le savoir. S'il n'est pas partagé, il ne sert à rien. Mmh. Donc notre idée, c'est aussi ça. Donc on a fait ce séminaire avec cet hommage avec l'université et le département sociologie. On a fait aussi on a mené une action avec le département musicologie pour faire connaître les musiques. Alors, musique du monde, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, même si on a une petite idée. Mais aller au-delà des grosses caricatures, les Maghrébins, c'est le raï, et puis nous, c'est la France, c'est les musiques du monde. Et alors que Rachida, qui était un grand rocker français, c'est pas les musiques du monde, c'est un rocker français. C'est pas parce qu'il s'appelle Rachid. Voilà, donc tout ça, on essaye de travailler, donc milieu populaire et milieu universitaire, milieu académique. Et ces questions de violences faites aux femmes ou d'inégalités, on essaye de les porter aussi parce que parmi nous, on a des femmes d'origine étrangère et qu'il y a très très peu d'institutions ou d'associations qui s'intéressent à elles, parce qu'elles, elles sont à la croisée du droit français et du droit, par exemple, algérien ou sénégalais ou algérien, qui les discriminent dans la loi, dans les lois des pays d'origine. Il y a des dispositions qui discriminent les femmes. Un exemple, il y a des pays qui autorisent la polygamie. Donc le gars, il a le droit d'avoir quatre femmes. Mm-hmm. Par contre, elle, si elle a une relation ou si elle demande le divorce, c'est problématique. Et donc, ces femmes, contrairement à ce qu'on pense, pour beaucoup, elles ne connaissent pas leurs droits. Et nous, on essaie modestement de leur apporter les outils pour qu'elles puissent prendre conscience de leur situation d'un point de vue juridique, qu'elles puissent prendre conscience aussi du fait que quand on a des lois qui s'opposent, elles ne sont pas complémentaires, elles s'opposent. Mmh. Donc, Un exemple concret sur le cas algérien ou marocain tunisien, puisque le code de statut personnel, le code de la famille s'applique à ces trois pays. On a eu des cas de femmes dont le mari était remarié une deuxième fois, mais pas civilement, mais religieusement. Toujours est-il qu'il était remarié, mais ça a été difficile de faire comprendre qu'elles avaient le droit d'être défendues par un tribunal français. Alors que, par exemple, des assistantes sociales, des éducateurs ou des gens qu'elles allaient voir leur disaient « Allez dans votre pays d'origine, c'est plus facile, parce que là-bas, ils connaissent les lois. » Ben non, surtout pas, mesdames. N'allez pas dans vos pays d'origine, parce qu'on va vous dire « Et alors, il a pris une deuxième femme, il a droit à deux autres. » Voilà, après, c'est des choix de société, ça ne nous appartient pas de... Voilà,
mais c'est apporter quand même la connaissance...
la connaissance pour qu'elles puissent se défendre. Mmh. Et voilà, et parce qu'elles sont minoritaires... Dans la minorité, alors quand je parle de minorité, ce n'est pas une minorité statistique. Les femmes, il y a plus de 50% de femmes en France. Il n'empêche qu'elles sont toujours minoritaires en termes d'accès à des postes importants, etc. Donc ces minorités, elles sont minoritaires dans la minorité et il n'y a personne qui s'intéresse à elles parce que d'une part, elles ne sont pas très nombreuses. Beaucoup d'entre elles n'ont pas le droit de vote. Donc c'est une minorité silencieuse. Et du coup, c'est particulièrement injuste parce que même des associations qui sont financées par l'État pour défendre les droits des femmes ne s'en occupent pas. Mmh. Soit parce que c'est trop compliqué, soit parce que c'est des immigrés, on les envoie faire des ateliers couscous merguez ou dans les structures d'éducation populaire et on ne s'occupe pas de ces questions. Un autre aspect, donc il y a la loi, les violences, c'est extrêmement important, mais une manière aussi de parler des femmes, ou des minorités, quelles qu'elles soient, c'est aussi de déconstruire le regard qu'on a sur elles et, par exemple, réhabiliter ou faire connaître de grandes figures de femmes qui ont résisté à l'oppression, qui ont résisté à des diktats de la société dans laquelle ils vivaient. Donc ça, c'est important. Et par exemple, la toute première action qu'on a menée, c'est un hommage à une grande chanteuse et méconnue qui s'appelait Hanifa. Moi-même, j'apprends petit à petit. C'était une chanteuse algérienne qui est née en milieu rural en Algérie un contexte rural, la pauvreté, la domination masculine, elle a été mariée de force à quelqu'un qu'elle n'aimait pas, etc. Mais malgré tout, elle s'est battue contre la domination masculine et ce patriarcat pour imposer le fait qu'elle avait envie de chanter et elle est allée chanter tout en étant analphabète. Elle est allée à Alger chanter, enregistrer des disques. Elle s'est imposée sur la scène algérienne comme une artiste. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes que personne n'a aidées. Il n'y a eu que des embûches. Et malgré tout, ceux qui les ont aidés...
Elles ont réussi à s'en sortir.
Ouais, ceux qui les ont aidés, ce sont des hommes. Dans une radio en particulier à Alger, ce sont des hommes, des grands artistes, qui sont encore vivants, qui ont dit, tu as une personnalité, tu as de la voix, etc. Mm-hmm. Ils les ont aidés. Elles ont, voilà, il y a Hanifa, Shilfa, et là aussi, on a eu pas mal de monde. Mais petit à petit, voilà, montrer aussi à tous ces jeunes... que c'est pas parce que tu es de milieu ouvrier ou de milieu rural que tes parents ou tes grands-parents travaillaient en Haute-Loire qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils sont bêtes ou qu'ils ne sont rien. C'est pas parce que ton père il est au chômage ou qu'il est au RSA qu'il n'est rien, contrairement à notre président qui dit quand vous traversez une gare, il y a des gens qui sont quelqu'un et des gens qui sont rien.
C'est grave.
Comment on peut dire des choses pareilles? Donc nous, on veut aussi lutter contre ça. Toute personne mérite le respect. Quel que soit son parcours, son histoire de vie, toute personne a le droit d'être respectée, d'être défendue en cas de difficulté. C'est aussi ça qu'on essaie de porter et c'est vrai que c'est très très difficile.
Alors dans le cadre de vos actions aussi, vous organisez un concert le 28 octobre à 19h à la salle Jacques Brel à Saint-Étienne. Parlez-nous donc de cet artiste qui va venir.
Oui, alors c'est le premier concert qu'on organise. On n'est pas du tout, on n'est pas des organisatrices de concerts, donc on va voir d'ailleurs si le public vient, parce que c'est quelqu'un qui est méconnu. Donc on dit, chiche, on va voir. Donc on a fait modestement une petite campagne de promotion de l'artiste et on vous remercie en particulier Radio Ondaine de nous donner l'occasion de parler de lui, puisque c'est vrai que c'est pas dans les journaux mainstream qu'on va parler d'une petite action, d'un petit concert et d'un petit artiste. Donc cet artiste il vient d'Algérie, de Kabylie plus précisément. Il se situe sur le registre de la variété kabyle. Ça plaît aussi à un public. Il a aussi des chansons plus engagées, comme par exemple une en référence au chanteur dont je parlais tout à l'heure, Matou Blounès, donc assassiné en 98. Donc voilà, ça va être une soirée simple, voilà, sans familial, on va dire. Avec,
donc c'est le 28 octobre, 19h, salle Jacques Brel à Saint-Étienne.
Voilà, c'est ça.
Le tarif ?
C'est 10 euros en prévente et 15 euros pour les personnes qui payent sur place.
Donc en prévente, comment on fait ? On vous contacte comment ?
Alors, sur notre site Assasga, il y a un QR code qu'on peut flasher pour payer en ligne. Et puis également, on a mis deux numéros pour des personnes en situation d'illettrisme ou un alphabet qui peuvent appeler ces deux numéros. Donc le 06 19 85 81 48 et le 06 68 62 66 81. Ce sont deux membres de notre association qui sont au bout du fil et qui donneront tous les renseignements nécessaires.
Donc c'est le 28 octobre à 19h, salle Jacques Brel.
Oui.
Est-ce qu'on pourra se restaurer sur place ?
Absolument. Donc il y aura des sandwichs, une buvette, voilà, très modestement. On fera ce qu'on peut avec les moyens de l'association.
Eh bien, Madame Sakina Baka, merci beaucoup d'être venue à Radio Ondaine.
Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, juste dernière chose, je ne voudrais pas laisser passer l'idée qu'on ne s'intéresse qu'à un pays, qu'à une culture, qu'à un sujet. On a plein de sujets encore dans la besace, des choses qui vont arriver, qui vont se développer dans les semaines, les mois à venir, on espère. Et on espère aussi que le soutien des institutions, ce qui n'est pas gagné, parce qu'encore une fois, on se rend compte que il y a des parcours fléchés, des financements fléchés, si on sort de la tuyauterie habituelle, si on a envie de parler de science à des femmes de quartier populaire, ou avec des femmes de quartier populaire, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est pas gagné.
N'hésitez pas, vous serez toujours les bienvenus sur l'antenne de Radio Ondaine, nous parler de vos projets futurs et de
merci
vos actions.
Beaucoup. Voilà, merci beaucoup.
Beaucoup. Merci, au revoir.
نفسنا يولي ونفس غسفل يسقل فن يكرب لي ما ثنذا عسس يرفذ القلم في اللسن نفسنا يولي ونفس غسفل يسقل فن يكرب لي ما ثنذا عسس يرفذ القلم في اللسن